Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Siki Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Au Mali, plus d'un million d'enfants sont toujours hors système scolaire selon l'UNICEF. Les défis de qualité et d'accès à l'éducation, le mariage précoce, l'insécurité, entre autres, sont les principales causes de cette non-scolarisation des enfants. Quelle est la situation scolaire au Mali? À quel niveau se situent les responsabilités? Quelles sont les mesures prises? Nos invités, Kinan Ag Dadeida, directeur national de l'enseignement fondamental, Elena Locatelli, chef éducation à l'UNICEF, Mamadou Kanta, professeur d'économie et de maths à Mopti, et Mohamed Abdoulaye Haïdara, sociologue, avec nous dans ce studio. Je suis Mohamedou Touré.
Le Grand Dialogue.
Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler du droit à l'éducation. Est-ce qu'il est respecté au Mali? Madame Elena Locatelli, aujourd'hui, pouvez-vous nous parler de la situation scolaire dans le pays?
La situation scolaire du pays est très préoccupante vis-à-vis, comme vous l'avez dit dans votre introduction, au fait qu'il y ait 1 million des enfants, et les millions des enfants, c'est sous la tranche d'âge des 7 à 12 ans, ne sont pas dans les classes. Hein, ils ne vont pas à l'école, ne sont pas inscrits dans les écoles. Cette situation, c'est une situation qui, pour l'UNICEF, c'est une situation préoccupante. Vous qui avez les droits à l'éducation, ce n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental reconnu par la Convention des droits pour les enfants et convention que le Mali a signée en 1990. Et donc, pour nous, c'est important de parler du droit de l'éducation. C'est important de faire ce que les communautés comprennent l'importance d'envoyer leurs enfants à l'école et l'importance pour le futur des enfants, pour le futur du Mali. C'est pour ça que pour nous, c'est important. C'est des activités très très clé pour tout l'UNICEF et donc nous sommes présents dans tous les pays et dans tous les pays nous cherchons de donner l'accès à une éducation de qualité pour les enfants et nous travaillons avec un support au ministère, un support au ministère décentralisé dans les régions à travers les académies et les CAP qui gèrent l'éducation à un niveau régional.
Vous l'avez dit, plus d'un million d'enfants sont toujours hors système scolaire. Il y a bientôt la rentrée prochaine qui est prévue. L'année dernière, combien d'écoles étaient fermées à travers le pays?
À la fin de l'année scolaire passée, l'UNICEF, ensemble avec les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, ont enregistré 500 écoles fermées. Des 700 écoles fermées, la moitié était dans la région des Mopti. Et ça, c'était une situation préoccupante, c'était une situation alarmante vis-à-vis du fait que dans les années précédentes, Mopti n'était pas en région assez touchée par la fermeture des écoles. Donc c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train d'être étudié et développer des nouvelles stratégies pour pouvoir permettre à les enfants de rentrer en classe le 2 octobre.
Monsieur Kinan Ag Dadeida, vous êtes le directeur national de l'enseignement fondamental. Vous êtes avec nous. Alors, votre point de vue sur cette situation scolaire dans le pays?
Je suis d'avis avec madame tout de suite que effectivement la situation éducative est préoccupante pour les raisons qu'elle vient d'évoquer. Beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'école. La couverture scolaire n'est pas suffisante. La situation sécuritaire fait que les écoles sont fermées ou des populations sont déplacées avec des enfants ou encore que les enfants sont sur place mais à cause de la situation sécuritaire, ils n'ont pas accès à l'école. Et effectivement, tout le monde est interpellé. Et dans la recherche des solutions, les différents partenaires sont aux côtés du Mali pour trouver des solutions.
Justement, au-delà des écoles qui étaient fermées et également de plus d'un million d'enfants qui sont toujours hors système scolaire, quels sont les autres défis auxquels le pays est confronté?
Bon, le pays est confronté, comme je l'ai dit tout de suite, à des problèmes socio-culturels, des problèmes sécuritaires, des problèmes de moyens nécessaires pour couvrir l'ensemble du territoire par le système éducatif, le problème du recrutement d'enseignants, de la disponibilité d'enseignants, des salles de classe, du mobilier scolaire, des matériels didactiques, des manuels, etc. Les problèmes sont multiples. Mais chaque pays fait face aux problèmes selon ses moyens. Et c'est ce que le Mali est en train de faire aujourd'hui. Mais les problèmes sont énormes et les moyens sont limités.
Monsieur Kanta Mamadou, vous êtes professeur d'économie et de maths à Mopti, une localité qui se trouve dans le centre du Mali et qui est une des zones les plus concernées par ce problème d'éducation, d'école fermée. Aujourd'hui, quelle est la situation à votre niveau?
Merci beaucoup pour l'invitation. Comme vient de dire le précédent locateur, franchement, c'est une situation qui est très, très préoccupante. Jusqu'à nos jours, c'est pas l'année passée seulement, il y a à peu près 3 ans qu'à partir de Mopti seulement, dans la zone inondée, il n'y a pratiquement pas d'école. Toutes les écoles fermées. Il y a des familles qui se sont déplacées pour venir avec leurs enfants à Mopti afin qu'ils puissent suivre les cours. Donc, il faut que l'État fasse beaucoup. Parce que cette situation est due à l'insécurité qui se vit dans la zone inondée de Mopti. Mais en plus de cette situation scolaire, ce qui me préoccupe davantage, vient de dire le directeur national de l'enseignement fondamental, c'est manque de moyens, manque d'infrastructures, manque d'éducation, manque d'éducateurs, c'est-à-dire d'enseignants, et surtout manque de didactique scolaire. Et les nouveaux programmes qui ont été mis en place, il n'y a pas suffisamment de documents pour exécuter ces programmes et même faire les suivis.
Monsieur Mohamed Abdallah Haïdara, vous êtes sociologue. Votre point de vue sur toute cette situation que le Mali connaît aujourd'hui?
Merci. Toute la situation sociopolitique n'est autre chose que le reflet de la situation dans laquelle nous sommes. L'école n'est autre chose que le reflet de la société. Et lorsque la société est malade, l'école, naturellement, devient malade. Donc, tout de suite, les intervenants ont dit que... Alors, donc, il y a 500... écoles qui ont été fermées, plus de 500. Alors donc, manque d'éducateurs spécialisés, manque de matériel didactique, et j'ajouterai le niveau, n'est-ce pas? Donc, peut-être qu'avec le temps, nous allons encore préciser. Tout ça n'est autre chose que le reflet d'une société qui est malade, à cause de la crise sociopolitique et économique dans laquelle le pays se trouve. Puisque l'école, en tant qu'agent de socialisation secondaire, bien sûr, nous, dans le jargon sociologique, on dit que ce sont des agents de socialisation secondaire. Secondaire ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire que ça continue. Alors donc, le processus de socialisation qui a commencé, par exemple, dans la famille, et donc qui va être continué à l'école. Et lorsque l'école, la société est malade, l'école également devient malade, puisqu'elle est liée à la société à partir de différents types de liens sociaux.
Madame Elena, aujourd'hui, quelles sont les causes principales de ce faible taux de fréquentation des écoles par les enfants?
Il n'y a pas en cause, il y a une multiplicité de causes. Il y a des causes qui sont liées à la vulnérabilité des familles, à leur économie, à leur situation financière qui ne permet pas effectivement de surmonter les coûts de l'éducation de leurs enfants. Il y a des problèmes liés effectivement au mariage précoce des filles. Il y a aussi des problèmes qui sont des problèmes qui sont plus régionaux. D'un région à l'autre, ça change les problèmes. Il y a des problèmes de travail des mineurs. Et il y a des régions où les enfants, pour la pauvreté des parents, pour la vulnérabilité de leur famille, lassent les écoles. Et il y a aussi tout un parti des enfants qui, comme a dit le directeur du fondamental, il manque des infrastructures. Les cycles, les premiers cycles fondamentaux a beaucoup de salles de classe, beaucoup des écoles. Les deuxièmes cycles fondamentaux n'ont pas le même nombre des enfants des salles de classe. Donc les enfants, quelquefois, ils terminent le premier cycle et n'ont pas la possibilité de continuer parce que l'école de deuxième cycle est très loin de eux. Et les parents, ils n'ont pas les moyens pour leur garantir les transports, pour permettre d'arriver à accéder au deuxième cycle et donc continuer leur étude, terminer leur étude fondamentale. Donc, comme je dis, les causes sont à différents niveaux et c'est à différents niveaux qui la solution peut être trouvée. D'un niveau de la communauté, d'un niveau de de discuter avec les communautés, de trouver des solutions communautaires, d'aider les familles à pouvoir avoir une éducation qui coûte moins pour eux, donc permettre une éducation plus accessible à tous les enfants, à toutes les familles, et en même temps aussi de trouver des solutions au travail des mineurs et aussi chercher de retarder les mariages des filles pour leur permettre de continuer de terminer leur étude fondamentale et peut-être aussi continuer leur étude secondaire.
Voulez-vous dire que le droit à l'éducation au Mali n'est pas totalement respecté?
Les droits d'éducation ont des problèmes au Mali. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important de travailler sur les droits de l'éducation, de travailler sur l'importance de l'éducation pour les familles. C'est un droit, c'est quelque chose d'important. Et figurez-vous que quelquefois, il y a un enfant. Chaque deux enfants, ils ne vont pas à l'école. C'est une situation grave. C'est les enfants qui puissent accéder à l'école et qui n'accèdent pas à l'école. C'est vrai qu'il manque des infrastructures, mais c'est aussi vrai qu'il y a des régions où, dans les salles de classe, il y a très peu d'enfants. Il y a la structure. Il y a un enseignant en classe, mais cet enseignant enseigne à la moitié des enfants qui peuvent entrer dans cette salle de classe en termes de structure. Donc, d'un côté, c'est vrai, il y a un problème de structure, un problème d'accès, un problème de distance des écoles. De l'autre côté, c'est aussi vrai qu'il y a des autres facteurs qui ne permettent pas à les enfants d'accéder à l'éducation. Et pour nous, c'est important de les dire, c'est important de se poser ça comme un aspect important. Et c'est pour ça que nous travaillons ensemble au ministère. Parce que c'est un droit, parce que le ministère trouve ça important et donc nous sommes et à côté du ministère. Le ministère, c'est notre partenaire aussi. Nous travaillons ensemble, nous sommes à la fois partenaires et nous soutenons aussi le ministère dans son travail.
Monsieur Kinan Agdadeida, le droit à l'éducation au Mali a des problèmes. Est-ce que vous partagez cet avis de Madame Elena?
Oui, tout à fait. Le droit à l'éducation suppose que tous les enfants ont accès à l'éducation. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Et notre pays partage cette réalité avec beaucoup de pays. Et comme je l'ai dit tout de suite, le droit à l'éducation suppose qu'on met l'éducation à la disposition de toutes les communautés, de tous les enfants. Et dans notre pays, même là où l'éducation ou l'école est présente, certains enfants n'y vont pas. Pour des raisons sociales, économiques, culturelles. Certains enfants sont enlevés de l'école pour être mariés, enlevés de l'école pour s'occuper des travaux de la famille, etc. Et donc, l'État fait ce qu'il peut. C'est vrai que ce n'est pas suffisant aux yeux de ce que la loi dit, mais l'État fait ce qu'il peut.
Qu'est-ce que l'État a déjà fait? Qu'est-ce que l'État a déjà fait?
L'État a déjà construit, équipé, doté les écoles d'enseignants un peu partout à travers le pays. Mais combien de villages et de hameaux n'ont pas encore d'école? Combien de fractions n'ont pas encore d'école? Combien de communautés nomades n'ont pas encore d'école? C'est ça que l'État n'a pas encore fait. Il est en train de le faire.
D'accord. Monsieur Kanta Mamadou, vous êtes professeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur le directeur quand il dit que l'État a suffisamment fait, même s'il reconnaît également qu'il reste beaucoup à faire?
Bon, certes, comme il a dit, ça dépend des pays du pays. Le Mali n'est pas le seul cas. C'est pratiquement la même situation dans tous les pays du tiers-monde. Moi, à mon avis, c'est le niveau de développement qui fait que l'État n'a pas pu remplir, même si ce n'est pas à 100%, à un niveau acceptable, la scolarisation de tous les enfants. Vous savez que pour que l'État puisse remplir normalement la situation de scolarisation de tous les enfants, il faut un degré de développement. Or, les pays du tiers-monde ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Comme l'a dit les Nations Unies, pour qu'un pays puisse se développer, puisse être considéré comme un pays développé, il y a certains indices, tels que l'indice d'éducation, l'indice de vie, l'indice de scolarité, l'indice de revenus et puis l'indice écolo ici. Mais tous les autres indices sont liés à la scolarisation. Tant qu'on ne résout pas le problème de scolarisation tel que l'indice vie, il y a un très grand problème pour que l'État puisse subvenir aux besoins de tous les enfants qui veulent aller à l'école. Il a dit aussi, dans certaines localités de Mopti, dans les Amours, même si on ouvre les écoles, nous avons des difficultés pour que les enfants puissent aller à l'école suivre le cours, vu la situation de la famille. Certaines ont dit, voilà qu'il y a 4, 5, 6 enfants qui sont dans la famille. L'État ne peut pas prendre en charge à un certain niveau, parce que certains enfants doivent être pris par les parents. S'il n'y a pas de moyens, donc la scolarisation de beaucoup d'entre eux s'arrêtera en cours de chemin. Il y a aussi des problèmes dans les certaines familles, nomades, telles que ceux qui sont suivis le plus souvent dans les familles telles ou les familles sereines, où on marie vite les femmes à l'âge de 13 ans, 14 ans. Ça trouve que certains n'ont même pas le délai. Donc il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui sont d'ordre social, d'ordre culturel, d'ordre économique, d'ordre financier. Donc pour que l'État puisse subvenir, il faut beaucoup, beaucoup d'efforts. Il faut même rééduquer la population dans certaines zones.
D'accord. Monsieur Haïdara, quand on dit que la scolarisation des enfants participe au développement d'un pays, pour expliquer ça aux citoyens lambda, pour qu'ils puissent comprendre, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation? Comment ça, la scolarisation participe au développement d'un pays?
Merci. C'est clair, hein, puisque quand on parle de développement, il s'agit de l'amélioration générale des conditions de vie, alors donc d'une population donnée et qui est individuelle, qui a des répercussions sur des individus. Alors donc ceci n'est pas possible sans une scolarisation, puisque la scolarisation, c'est la clé qui nous permet quand même de mener une vie moderne actuelle, n'est-ce pas? Donc tout est organisé de sorte que quelqu'un qui est analphabète n'a pas de place dans la société moderne. Alors donc le développement analysé actuellement par les spécialistes, non pas en termes purement économiques, c'est-à-dire quantitatifs, mais en termes qualitatifs, c'est-à-dire mettre l'accent sur ce qu'on appelle le développement social. Et parmi les composantes du développement social, l'éducation est prioritaire, comme un de mes collègues vient de le dire tout de suite, mon collègue qui disait que alors donc c'est lié au niveau du développement du pays. Il y a ce qu'on appelle un lien d'effet à cause entre éducation et niveau de développement. Et lorsque nous prenons les pays les plus développés, vous allez voir que ce sont des pays qui ont un système éducatif beaucoup plus performant et de manière quantitative et qualitative, n'est-ce pas? Alors donc dans nos pays, nous souffrons par le fait que certains économiquement, bien sûr qu'on ne peut pas parler sans qu'il y ait l'aspect économique, il y a un manque de ressources. Alors donc comment faire en sorte pour alors donc scolariser la majeure partie ou bien toute la population qui a besoin d'être scolarisée? Donc il faut d'énormes ressources. Alors donc nos pays font de leur mieux. Alors donc ils sont bien sûr assistés, mais tant que nous n'atteignons pas le seuil critique, c'est-à-dire plus de 50% alors donc de personnes alphabétisées, on ne peut pas prétendre au développement.
Monsieur, madame Elena, pardon, est-ce que vous avez une autre explication au fait que la scolarisation participe au développement d'un pays?
La scolarisation, bien sûr, participe au développement. Mais la scolarisation, c'est un passage du développement de la personne. Le développement de la personne commence déjà au moment où il naît et dans sa famille, les premières années. L'éducation préscolaire, c'est effectivement quelque chose de très important. Et c'est les passages dans la famille, à les préscolaires, à des institutions qui portent les enfants, après à faire les passages vers la salle de classe du primaire. Et dans la salle de classe du primaire, ils développent ses compétences, ses capacités, et au fur et à mesure, l'enfant, il grandit et entre apprendre des choses qui servent à sa société et à lui-même pour son futur apprentissage. Et l'école secondaire, c'est l'ouverture, et pour secondaire, c'est tous les niveaux, même les non-formes, les professionnels, c'est l'ouverture vers le monde du travail. Et donc, pour moi, ce n'est pas une question de scolarisation, c'est une question des objectifs de développement et donc, par conséquence aussi, de quel objectif pour le développement de la personne et de son contribut dans la société malienne nous voulons donner. Et l'école, c'est un passage important. Et c'est correct de dire que l'école primaire doit aussi améliorer sa qualité. qualité.
D'accord, j'allais en venir parce que vous parlez beaucoup de causes, vous parlez de mariage précoce, de l'insécurité, mais aujourd'hui la qualité de l'enseignement également, quand on voit le nombre d'élèves et quand on voit leur niveau aussi, est-ce que c'est pas aussi une autre préoccupation majeure?
C'est une préoccupation majeure et je pense que le directeur fondamental peut dire plus. C'est aussi une préoccupation du ministère. Améliorer la qualité scolaire, améliorer ce que les enfants apprennent quand ils sont assis dans les bancs, dans la classe, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important pour les ministères, c'est quelque chose d'important pour nous comme UNICEF et pour notre travail. Mais aussi, c'est la réponse à la demande des parents. Qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que la société demande, c'est que les enfants qui entrent en classe, ils apprennent quelque chose d'outil pour leur futur. Et donc cette connexion entre qu'est-ce que c'est étudié sous les livres et les futurs des travail des enfants, les futurs de la société malienne et leur futur dans leur rôle dans la société pour leur permettre d'avoir une vie meilleure, d'avoir une économie meilleure, d'avoir un travail dans leur âge adulte, c'est aussi important.
D'accord. Monsieur Haïdara, est-ce que ce n'est pas une des raisons qui pousse les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école quand on voit le nombre de taux de chômeurs qui ne cesse d'augmenter, quand on voit la qualité de l'éducation dans les écoles également et le mariage également, préféré marier les enfants, les filles, au lieu de les envoyer à l'école? Est-ce que ce n'est pas une des causes?
Merci beaucoup. C'est une des causes, mais la cause, comme Madame a eu à le dire, elle est multifactorielle. L'école, il faut comprendre que c'est l'interaction sociale entre plusieurs groupes. D'un côté, alors donc les enseignants, de l'autre, les apprenants. Alors donc, en troisième position, vous avez les parents d'élèves, vous avez les autorités publiques. Alors donc, lorsque un groupe faillit à ses responsabilités, ça ne marche pas. Alors donc, la baisse du niveau et le problème de non-scolarisation, etc., etc., c'est dû au fait que, alors donc, au Mali, on se pose beaucoup de questions sur, alors donc, le rôle de l'école. Et après la formation, qu'est-ce que je vais devenir? Alors donc, les gens regardent, puisque la société, c'est ça, chacun se regarde entre eux. Alors donc, on voit que ceux qui n'ont pas été à l'école, alors donc, sont parvenus à faire quelque chose. Donc, très souvent, il est commun d'entendre dans la rue, j'ai pas été à l'école, mais ça ne m'a rien fait. Alors donc, je réponds que ça t'a tout fait. Ça t'a tout fait. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas été à l'école, même si vous êtes un grand entrepreneur, vous aurez besoin de l'appui de ceux qui ont été à l'école pour gérer vos affaires. Alors donc, il y a les causes culturelles également qui font que, par exemple, concernant les jeunes filles, on préfère les marier vite plutôt qu'à leur donner le temps alors donc d'étudier. Pourquoi? Et il y a quelques années de cela, nous avons fait quelques recherches sur Bamako au niveau de l'université avec certaines ONG. Alors donc, concernant les causes du mariage précoce, alors donc est forcé. Il y a plusieurs causes et on leur pose la question pourquoi? Alors donc, vous n'allez pas laisser vos filles alors donc à terminer au moins l'école fondamentale. Ils disent, ben, franchement, on ne voit pas l'intérêt. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui ont étudié, alors donc, sont dans des grains de thé, en train de prendre du thé. Alors donc, ils deviennent, autrement dit, au lieu de devenir des facteurs de développement, ils deviennent des bouches à nourrir. Alors donc, franchement, ça n'encourage pas. Donc, ouais, ce qui fait qu'au niveau de la société malienne, la crise a une répercussion sur le fait qu'on voit très peu de gens qui sortent de l'école, alors donc, qui parviennent à s'insérer. Il y a plusieurs expériences. C'est une tentative de compréhension, mais quand même, ces facteurs découragent beaucoup les parents à envoyer, alors donc, surtout les jeunes filles à l'école.
Merci, monsieur Kinan Agdadeida, vous qui êtes directeur de l'enseignement fondamental. Aujourd'hui, quand on parle de faible taux, faible qualité de l'enseignement, est-ce que ça n'incombe pas de votre responsabilité?
C'est vrai que la qualité de l'éducation incombe au département de l'éducation. Elle concourt justement à améliorer les résultats scolaires et elle-même, elle est tributaire de la qualité des enseignants, des programmes, des manuels, des matériels didactiques, leur disponibilité et les différents suivis qui sont faits de l'ensemble des activités éducatives pédagogiques au niveau des écoles. Et sur l'ensemble de ces éléments, on a des difficultés. Si bien que on peut effectivement parler aujourd'hui de la mauvaise qualité des enseignements apprentissage dans notre système. Le ministère en a conscience, les partenaires qui nous accompagnent en ont conscience, et des solutions de remédiation sont conduites régulièrement pour changer les choses. Mais comme vous le savez, l'enseignant c'est un individu, c'est un être social qui lui aussi prend les mauvaises comme les bonnes choses au sein de la communauté. Aujourd'hui, les gens veulent gagner de l'argent sans ne rien faire. Ils ne veulent pas fournir d'efforts, ils n'ont aucune conscience de leur responsabilité vis-à-vis des jeunes gens qui sont sous leur responsabilité. Et c'est toutes ces mentalités qu'il faut changer. Et effectivement, le département en a conscience et des solutions sont mises en œuvre. Mais ce n'est pas toujours facile. Quand l'enseignant préfère toucher son salaire et n'est pas s'occuper de son devoir, et ça c'est pour le plus grand nombre, je crois qu'il y a à s'inquiéter pour le système. Quand le matériel didactique nécessaire n'est pas disponible et qu'on demande à l'enseignant d'avoir de bons résultats scolaires, ce n'est pas toujours évident. Et donc c'est une multitude de problèmes qui se mettent ensemble pour lutter contre la qualité de l'éducation. Mais tout le monde en a conscience et des solutions sont mises en œuvre selon nos moyens.
L'autre chose, monsieur le directeur, c'est quand on voit le nombre d'élèves qui se trouvent dans une classe, est-ce qu'un enseignant peut déjà apprendre à 100 élèves qui se trouvent dans une seule classe pendant 4 heures de temps le programme de la journée?
Oui, vous parlez du problème des effectifs pléthoriques. C'est une réalité dans certaines de nos écoles. C'est difficile pour un enseignant, quelle que soit sa formation, de gérer un groupe pédagogique de cette taille-là. Et effectivement, ça rentre dans l'explication de la mauvaise qualité de l'éducation. Mais comme je l'ai dit, des classes sont construites, des solutions sont mises en œuvre. C'est vrai que ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas chaque année qu'on peut résoudre, mais c'est au fil des années que les solutions sont mises en œuvre. Et aujourd'hui, si vous partez à Bamako, c'est rare de trouver dans une école publique une classe qui dépasse les 35 élèves. Mais si vous allez dans certaines régions, vous allez trouver 140 élèves, 150 élèves en 7e, en 8e, en 9e année. Ce n'est vraiment pas évident pour un enseignant d'avoir des résultats recherchés. Les objectifs pédagogiques sont toujours biaisés par ces effectifs pléthoriques.
Monsieur le directeur, l'autre chose, c'est qu'à Bamako, même également, on va voir dans les écoles privées certains qui transforment des maisons en une école privée.
Bon, ça c'est aussi une réalité qui existe. Nous avons été témoins de situations comme ça. Mais comme vous savez, dans le désordre, chacun fait ce qu'il peut. Jusqu'ici, s'il n'y a pas d'ordre, les gens vont même se mettre sous les arbres à Bamako et enseigner aux enfants quelque chose.
Alors, monsieur le directeur, qui est responsable de ce désordre? Qui est responsable de ce désordre?
Tout le monde est responsable de ce désordre. L'État met en œuvre un certain nombre de lois, de textes, de règlements. Et qui ne sont pas toujours suivis normalement, et les gens profitent du manque de suivi pour faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible qu'on donne une autorisation d'ouverture d'une école sans s'assurer qu'effectivement cette personne dispose d'un cadre légal et normal pour accueillir les enfants des familles. Mais c'est souvent le cas. Les gens ont leur décision et ils ouvrent les écoles comme ils peuvent, comme ils veulent. C'est vrai que ça aussi, c'est un problème dont on a conscience. Et aujourd'hui, au niveau des CAP, au niveau des académies, des instructions ont été données pour essayer d'apporter des correctifs. Mais nous sommes dans une situation sociale, dans une situation où aujourd'hui, l'État n'a pas toujours les moyens de faire appliquer les règlements, la loi. Et donc, ça va encore perdurer en attendant que des sanctions tombent.
Monsieur Kanta, vous êtes professeur. Monsieur le directeur pense tout de suite qu'il y a certains enseignants qui pensent beaucoup plus à leurs droits qu'à leurs devoirs.
Bon, franchement, pour être honnête avec vous, cette situation existe. Et moi, je pense que cela est plus fréquent dans les établissements publics où il n'y a pratiquement pas de suivi. Sinon, dans une école privée digne de ses noms, comme je dis digne de ses noms, pas des écoles privées qui sont sous les hangars ou sous les arbres, mais les écoles privées, il y a des écoles privées mortes ici, dignes de ces noms, où les enfants fournissent même plus de bons. On peut dire qu'on les même, on exploite même les ils font plus ce qu'ils les trouvent. Mais cette situation existe.
s'inscrivent le plus souvent dans les établissements publics où il n'y a pratiquement pas de suivi. Moi, je connais même des enseignants, pas au niveau fondamental, mais au niveau secondaire. Vous trouverez que dans l'établissement titulaire, les publics, ils n'ont que 6 heures ou 8 heures. Pour le reste des heures, ils les exécutent dans les établissements privés. Il faut plus là-bas que dans les établissements, parce qu'ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas contrôlés. Donc, ils font de n'importe quoi. Moi, je pense que pour revenir en arrière, c'est toute la situation que nous vivons maintenant. Je suis vraiment désolé. L'État a une grande part dedans. Non, depuis l'ouverture, depuis la création, jusqu'à l'installation des établissements, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc s'il n'y a pas de suivi, comme vient de dire le directeur, dans les désordres, tout le monde fait ce qu'il veut. Tant que l'État ne joue pas pleinement son rôle, en passant, l'ouverture, il faut suivre, lui donner un agrément de création d'ouverture à une personne d'ouvrir une école, il faut d'abord vérifier est-ce qu'ils remplissent les conditions, est-ce que l'intéressé même est un enseignant. Moi, je vois qu'on a des gens qui ont ouvert des établissements, ils n'ont même pas d'enseignants, ils n'ont même pas de diplôme. Seulement, ils constituent les dossiers des enseignants sur les écoles. Cette personne ne peut pas bien gérer parce qu'il n'a pas la confiance, il a la conscience professionnelle. Donc, il faut que l'État joue pleinement son rôle depuis la création à l'ouverture, suivi, contrôle, gestion, ainsi de suite, pour que l'école malienne puisse se retrouver son vrai valeur.
Vous avez parlé des conditions dans les écoles publiques. Dans les écoles privées également, il y a certains qui dénoncent le fait que certains enseignants ne sont pas payés et qu'ils ne sont même pas inscrits à l'INPS, par exemple.
Comme je l'ai dit, dans les écoles publiques, c'est non. Moi, je connais les établissements publics à mon pays, les enseignants, depuis le mois de mars passé, ne sont pas payés. Je le sais. Rares sont les établissements publics aussi. Moi, les enseignants sont inscrits à l'université. Mais je dis les écoles publiques dignes de ce nom, c'est-à-dire des vraies écoles publiques qui ont des infrastructures correctes, qui ont une administration valable, qui ont des enseignants de qualité. Les établissements publics et les enseignants sont exploités, comme vous l'avez dit, ils ne sont pas bien payés. Mais eux ne gagnent pas ce qu'ils ne font pas. Ils travaillent plus que leur. Mais c'est dans les établissements publics que les gens gagnent plus que ne le font.
Madame Elena, face à tous ces problèmes, quand on voit que M. Kanta pense que c'est l'État qui devrait assumer ses responsabilités face à ce désordre, comme l'a signalé M. le directeur tout de suite, est-ce que ce n'est pas également une réalité?
Je pense que nous devons rentrer vers la question des droits à l'éducation. Les droits à l'éducation, c'est un droit, c'est statuté comme un droit. Mais c'est une responsabilité de pas une seule entité. C'est la responsabilité de tout le monde. C'est la responsabilité en premier état des parents. Les parents doivent comprendre l'importance de l'éducation. Les parents doivent être les premiers responsables, les premiers entre guillemets superviseurs aussi de l'état de l'école où les enfants y vont. C'est vrai, le ministère a des rôles de responsabilité de délocaliser, de centrer au niveau des régions où il y a des inspecteurs qui sont censés aller à inspecter les écoles, à regarder les aspects de la pédagogie, enseignement, de la qualité, de qu'est-ce qu'a enseigné à les enfants. D'un autre côté, aussi, les écoles sont gérées et ils ont des comités de gestion où les parents ils jouent leur rôle. Et donc, je pense que c'est pas une entité ou l'État ou les enseignants ou les inspecteurs qui sont les seuls. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de tout le monde et en premier lieu des parents.
D'accord.
Et donc,
alors, c'est un appel aux parents. Le problème à résoudre ne devrait-il pas être de mettre fin à ce désordre? Parce que même si on arrive à avoir un taux beaucoup plus élevé d'élèves qui seront à l'école s'ils ne bénéficient pas d'une bonne qualité d'enseignement, est-ce que l'objectif sera toujours atteint?
Je pense que, comme l'a dit le directeur du fondamental, c'est un travail de longue durée. Changer la qualité scolaire, changer les programmes, réviser les programmes, c'est un travail qui demande, il ne peut pas être fait un jour. C'est un travail qui demande des années et c'est quelque chose dans lequel les ministères s'est engagé et les partenaires du ministère ils s'engagent ensemble. Nous sommes ensemble à écrire un nouvel programme décennal pour les secteurs. un programme qui va donner des directives pour améliorer tout cet aspect. Et donc, c'est...
D'accord. Vous suivez le Grand Dialogue et aujourd'hui nous parlons du droit à l'éducation. Est-ce qu'il est respecté au Mali? Nous allons observer une courte pause et revenir.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Réagir à toutes ces informations, c'est possible sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou également sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Ce soir, nous parlons d'éducation. Nos invités, Kinan Agdadeida, directeur national de l'enseignement fondamental, Elena Locatelli, chef éducation à l'UNICEF, Mamadou Kanta, professeur d'économie et de maths à Mopti et Mohamed Abdallah Haïdara, sociologue. Alors tout de suite, les mesures prises. Monsieur le directeur, on l'a dit, plus d'un million d'enfants sont toujours hors système scolaire. À la fin de l'année scolaire précédente, il y a plus de 500 écoles qui étaient fermées au niveau de l'État. Qu'est-ce qui est fait pour qu'à la rentrée prochaine, cette situation puisse être améliorée?
Oui, effectivement, pour les enfants qui sont en école ou qui n'ont pas accès du tout à l'école ou qui sont sortis du système, il y a des alternatives éducatives qui sont mises en œuvre.
Monsieur le directeur, je crois que vous êtes dans un local fermé, il y a des échos. On va revenir à vous tout de suite. Alors, Madame Elena Locatelli, vous êtes au niveau de l'UNICEF, vous avez un programme qui est appelé « Chaque enfant, éducation », c'est ça?
Oui, pour chaque enfant, éducation. Oui, ce n'est pas un programme, c'est une campagne que l'UNICEF lance tous les années et que cette année a décidé de lancer à niveau national. Donc, toutes les régions sont touchées et cette campagne, c'est une campagne faite par même les jeunes. Il y aura plus de 1900 jeunes qui vont toucher dans leur village, porte à porte, les familles, pour discuter sur l'éducation, pour discuter sur les droits de l'éducation, pour discuter avec eux pourquoi ils n'envoient pas leur enfant à l'école et chercher des voies et les engager dans l'éducation de leur enfant pour augmenter les taux de scolarisation dans leur village. C'est une campagne qui vise aussi les médias. Nous avons une exposition photo qui se trouve au Palais de la Culture pour les prochaines 3 semaines. C'est une exposition des photos qui expliquent l'envie des enfants maliens à être éduqués et à aller à l'école. Et c'est une exposition photo très particulière parce qu'il y aura des photos faites par des photographes professionnels, mais aussi des photos faites par les gens de toutes les régions du Mali qui se sont engagés, qui sont allés à nous montrer qu'est-ce que pour eux les valeurs à l'éducation et comment l'éducation peut porter. Donc l'UNICEF fait cette campagne en appui au ministère pour signer la rentrée des classes, mais en même temps pour engager un dialogue vers les communautés, pour donner l'importance d'une éducation vers les enfants, pour le rôle que l'éducation peut jouer pour le futur du Mali et pour le futur des enfants du Mali.
Est-ce que ça se fera dans tout le Mali?
Oui, dans toutes les régions. Les 1900 enfants sont dans chaque région du Mali. Il touchera une bonne partie de chaque région. Mais la campagne en soi vise à expliquer les problèmes de la scolarité dans chaque région et porter aussi les dialogues après à niveau régional par notre bureau régional et par aussi notre partenaire qui sont sur place à niveau régional et qui vont engager autres discussions au niveau de la campagne.
Monsieur Kanta, que pensez-vous de cette campagne? Quel sera son impact sur la situation?
Effectivement, comme je le dis à madame tout de suite, si nous allons procéder à une forte sensibilisation au niveau de certaines localités qui refusent que les enfants aillent à l'école, vu leurs problèmes sociaux, culturels, bien. Donc, on peut sensibiliser les gens à les montrer les avantages de la scolarisation tout en se mettant aussi à plat les inconvénients des freins à cette scolarisation telle que le mariage précoce. Donc, en plus de ces facteurs que vous avez dénumérés, madame, il y a dans les zones inondées de Mopti l'insécurité. Tant que
la sécurité ne sera pas rétablie. Souhaitons-le, parce qu'avec nos essais, nous souhaitons dans peu de temps que cette situation sera résolue. Même si on ouvre les écoles, il n'y aura pas d'enseignants, il n'y aura pas d'élèves. Donc, en plus de la mise en place de structures, si la situation sécuritaire se rétablit, il faut une forte sensibilisation de la population pour leur montrer les avantages de la scolarisation et les inconvénients des facteurs qui freinent cette scolarisation.
Alors, M. Haïdara, les autorités ont parlé aux parents d'élèves, ils n'ont pas écouté. Les enseignants également, aujourd'hui, quand ce sont les enfants qui vont s'adresser à ces adultes pour leur expliquer, est-ce que vous pensez que cette stratégie va changer quelque chose dans la situation?
Bien sûr. Ça va beaucoup agir. Pourquoi? Parce que les enfants, nos enfants, leur communication a beaucoup plus d'impact sur nous. Ça nous j'aime beaucoup plus que, par exemple, si c'est alors donc une simple communication. Donc, vous voyez, Madame Locatelli qui déjà nous expliquait ça. Mais avant ça, vous avez parlé d'un certain... Je vais un peu arriver en arrière pour souligner un certain nombre de problèmes qui font que aujourd'hui, alors donc, le niveau baisse. Vous avez parlé de l'aspect organisationnel et de tout ça, mais il y a un aspect qui est un fait réel qui recrute à l'école. C'est pas tous des enseignants. Alors donc, et la profession enseignante, c'est pas n'importe qui peut faire. Alors donc, qui peut exercer cette profession. C'est-à-dire, on peut avoir la connaissance.
Quand vous dites qui recrute-t-on à l'école, est-ce que vous parlez des écoles publiques ou des écoles privées aussi?
Partout. Partout. C'est-à-dire, il y a des écoles où c'est très commun d'entendre, vous n'avez pas eu de boulot, même être enseignant. Et ça, c'est scandaleux. Et pourquoi? Parce que la profession enseignante, ce n'est pas n'importe qui peut donner le savoir. On est formé pour ça. Il y a des écoles spécialisées pour la formation. Alors donc, pour que les niveaux, on puisse avoir un bon niveau, il faut que les gens qui enseignent soient des professionnels. Et quelqu'un a souligné le problème de l'éthique professionnelle. On ne peut pas, alors donc, être strict éthiquement lorsqu'on n'a pas suivi la formation. Et on ne peut pas être strict éthiquement lorsque on vient à l'enseignement, non pas par conviction, mais à défaut de rien.
La pédagogie.
Voilà.
D'accord. Alors, monsieur le directeur, nous allons revenir à vous, Kinan Agdadeida. Aujourd'hui, quelles sont les mesures prises par l'État pour permettre que ces plus de 500 écoles qui étaient fermées l'année prochaine puissent être réouvertes et également que ce taux qui parle de plus d'un million d'enfants qui sont toujours hors système scolaire puisse être beaucoup plus réduit. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur? Alors, Elena, monsieur le directeur, nous rejoindra après. Aujourd'hui, quelle est l'urgence selon vous au Mali?
L'urgence aujourd'hui, c'est d'impliquer tous les partenaires. Et les ministères sont en train de faire ça. Et nous sommes à côté du ministère pour chercher de donner accès à tous les enfants qui ont droit et porter cette valeur qu'est l'éducation pour les familles. Je pense que la question est véritablement une question d'équité. Qui sont les plus touchés? Sont les enfants dans les zones rurales, sont les enfants dans les familles les plus démunies, les familles plus vulnérables. Donc c'est à eux que nous devons penser, c'est à eux que nous devons adresser toutes les actions. Et toutes ces actions vont ensemble. Ensemble, qu'est-ce que les ministères sont en train de faire efficacement pour améliorer la qualité, pour amener plus d'enseignants qualifiés dans toutes les régions. Il a dit avant, les directeurs, ils ont créé des écoles pour former les enseignants dans chaque région. Et les soucis, c'est et qu'est-ce que les ministères cherchent d'arriver à faire, c'est des recrutements régionaux pour avoir les gens de la même région qui puissent rester et donc pas avoir un problème de délocalisation des enseignants. Des enseignants qui cherchent à rentrer vers leur région d'origine. Et tout ça, je l'ai dit encore une fois, c'est pour les plus vulnérables, pour les familles qui ont plus besoin, pour les enfants qui sont dans les zones plus rurales, où effectivement il n'y a pas assez d'écoles pour leur permettre d'accéder à une éducation.
D'accord. Monsieur le directeur, vous êtes avec nous maintenant. Alors, à la fin de l'année scolaire, il y avait plus de 500 écoles qui étaient fermées. Aujourd'hui, pour cette prochaine rentrée scolaire, est-ce que ces écoles seront réouvertes?
Bon, c'est notre objectif. C'est vrai que pour l'ouverture de ces écoles, il y a des enjeux importants. Le problème sécuritaire est l'enjeu majeur. Et au niveau des académies et des CAP, des réunions de concertation ont lieu avec l'ensemble des acteurs et des partenaires. Et avec l'aménagement, je pense que quelques solutions pour sécuriser certaines zones ont également été prises en charge. Et nous pensons qu'à l'ouverture, certaines écoles vont pouvoir réouvrir.
Mais, monsieur le directeur, à ce stade, si vous êtes en train de faire des réunions, est-ce que vous laissez beaucoup d'espoir aux Maliens?
Bon, l'espoir est toujours permis.
D'accord.
Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, l'espoir est permis.
D'accord, espérons donc. Et c'est ce qui met fin à ce débat sur l'éducation. Nos invités, Kinane Agdadeida, directeur national de l'enseignement fondamental, Elena Locatelli, chef éducation à l'UNICEF, Mamadou Kanta, professeur d'économie et de maths à Mopti, et Mohamed Abdallah Haïdara, sociologue. Débat réalisé par Moumine Sendebou, à la mise en onde Philly Dambélé, régie vidéo assurée par Peting Diarra. Je suis Mohamedou Touré, à demain pour un prochain numéro.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo de Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.